printemps du livre Grenoble 2025, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct et en public pour cette nouvelle émission de la librairie des étudiants. Merci également aux équipes de La Bobine de nous recevoir pour ce plateau exceptionnel, on peut effectivement les applaudir. Grenoble est en effervescence ce week-end avec l'édition 2025 du Printemps du Livre. Cette année encore, de très nombreux auteurs viennent à notre rencontre au cœur des Alpes et j'ai le plaisir aujourd'hui de pouvoir échanger avec l'un d'entre eux. Nous sommes en direct depuis la barre de La Bobine au parc Paul Mistral et nous allons nous plonger au milieu des fleurs. Des fleurs oui, mais pas n'importe lesquelles. Vous connaissez certainement les fabuleuses toiles de Monet, les nymphéas. Notre auteur du jour va nous emporter entre les touches de peinture pour tenter d'en percer les mystères. Bonjour Grégoire Bouillet.
Bonjour Thomas.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes une vraie vedette pour notre public.
Vous l'avez vu, hein. Non mais c'est génial, Grenoble c'est génial.
Vous aimez le public grenoblois ?
J'aime le public grenoblois, absolument, je lis à blanc.
Qu'est-ce qu'il a de si singulier le public grenoblois ?
Il applaudit quand on lui demande.
Ah oui, pour ça qu'il nous applaudit depuis tout à l'heure.
Absolument. Non mais c'est dire à quel point ils ont le sens de l'humour et qu'ils sont parfaits, voilà.
Vous êtes flatteur, hein ?
Non,
j'espère
parce
que
c'est vrai.
À chaque fois,
non,
hein.
Mais non, bah, bien sûr que non. C'est la première fois que je fais un signe. Ah, allez-y. Voilà, c'est la première fois de ma vie. Donc, c'est vraiment une expérience inédite et je dois ça au Festival de Grenoble à Karine Dinka et voilà toute l'organisation, à La Bobine aussi. Merci de nous accueillir. C'est tout.
On les remercie encore. Merci à vous aussi d'être au micro de la librairie des étudiants aujourd'hui. Votre dernier roman, Le syndrome de l'orangerie, est paru en septembre 2024 aux éditions Flammarion et il est toujours disponible en librairie indépendante, il faut le notifier. Le syndrome de l'orangerie, c'est un roman qui est un coup porté à votre narrateur. B'mor va développer une théorie. Après être sorti en trombe du musée de l'orangerie, pour pouvoir reprendre ses esprits, votre personnage est persuadé que Monet a peint des cadavres dans les nymphéas. Comment ne pas dire, comme Penny, que cette théorie, c'est un peu comme pousser mémé dans les nymphéas. Est-ce qu'on peut peut-être le signifier autrement ? Je ne sais pas. Votre personnage revient sur les lieux de sa crise pour retrouver et retourner voir ce qui le dérange tant. Il s'agit alors de ne pas voir le tableau tel qu'il est, tel qu'on nous le présente, mais tel qu'il est vraiment, tel qu'il est sincèrement. Alors, première question, est-ce qu'on sait vraiment voir une peinture ? Sans avoir forcément recours au petit cartel descriptif.
Non, alors juste petite précision. En fait, cette expérience des nymphéas m'est réellement arrivée. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans la salle des nymphéas à l'orangerie. Hein. Et c'est vrai que quand on va voir les nymphéas de Monet, on a le sentiment que, enfin, on vient avec déjà plein de mots en tête et plein de certitudes qu'on va essayer de vérifier d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va voir un chef-d'œuvre, on sait qu'on va voir un tableau impressionniste qui va parler de la nature, de la féerie, de la beauté, de la méditation intérieure aussi, hein, puisque c'est comme ça que les nymphéas, les grands panneaux sont présentés à l'orangerie. Un hymne à la paix, enfin voilà, il y a tout un tas de un corpus de mots. On n'est jamais neutre, on n'est jamais vierge devant un tableau. Et il se trouve que visitant, voilà, voyant, découvrant pour la première fois les grands panneaux de l'orangerie, en fait, je n'ai pas du tout eu le sentiment auquel je m'attendais. C'est-à-dire que moi, j'ai éprouvé une espèce d'angoisse, de malaise. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui puait la mort dans ces grands panneaux, qui sont sublimes par ailleurs. Hein, mais quand même, moi, ce n'est pas du tout le sentiment auquel je m'attendais. Donc, j'ai été très surpris d'éprouver un sentiment aussi contraire à celui que j'aurais dû avoir. Et, pardon, oui.
Non, mais est-ce que vous avez peut-être un syndrome stendhalien ?
Alors, c'est très rigolo ce que vous dites, parce que, évidemment, j'ai après mon livre Le syndrome de l'orangerie en référence au syndrome de Stendhal. Et j'ai eu la curiosité d'aller lire les pages dans lesquelles Stendhal, dans son voyage en Italie, raconte comment il a eu son fameux syndrome de Florence. Et en fait, il visite la basilique San Croce. Il raconte que là, il voit les fresques du Volturno et que là, d'un seul coup, il a un trouble psychosomatique, enfin cardiaque, nerveux. Et voilà, il sent mal, il sort, etc. Et quand on lit la page, on se rend compte que avant d'éprouver ce sentiment du sublime de la beauté, en fait, il a été bouleversé de passer devant les tableaux de Michel-Ange, Galilée, Machiavel. C'est-à-dire qu'en fait, toute son émotion du beau est une sublimation de l'émotion de la mort qu'il a ressentie avant. Et il le dit vraiment saisi par l'émotion des tombeaux qu'il venait juste de voir avant de voir les fresques. Et donc, je me suis dit, en fait, le syndrome de Stendhal est un syndrome de l'orangerie par anticipation. Enfin, c'était déjà un syndrome de l'orangerie. Mais en fait, on ne le sait pas parce qu'on retient que l'idée du syndrome de la beauté, quoi. Enfin, du saisissement de la beauté. Alors que c'est un saisissement aussi lié à la mort.
Vous parlez de mort, de puanteur mortelle de ces tableaux. Qu'est-ce qu'ils ont de si singulier, justement, pour que vous puissiez, à un moment donné, vous dire il y a des cadavres, il y a des morts derrière ces traits de peinture. Parce qu'ils sont quand même assez lumineux aussi. Je ne sais pas si dans l'auditoire, vous êtes tous et toutes allés à l'orangerie. Il y a quand même des tableaux qui sont assez lumineux au niveau peut-être des couchers de soleil qui embrasent avec des couleurs orange et ocre. On est quand même loin de la mort.
Eh ben, c'est vous qui le dites. Chacun sa perception.
Bien sûr, bien sûr.
C'est Marcel Duchamp qui disait en 1905, en fait, c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Alors c'est très intéressant comme phrase parce que je pense que c'est en disant ça, Marcel Duchamp se dédouanait complètement d'avoir à expliquer ce qu'il faisait avec ses ready-made. Il dit bah, de toute façon c'est pas moi, c'est le regardeur et le regardeur il imaginera ce qu'il veut. Et il y a un petit dialogue comme ça dans les livres entre Penny et Bimor, mon détective, et son assistante, où il explique bah c'est super, le regardeur fait l'œuvre. Si les gens n'allaient pas à l'orangerie voir les nymphéas, bah en fait les nymphéas n'existeraient pas. Donc c'est vraiment le regardeur. Du coup on est en démocratie quoi, c'est super, vive nous, hein, hashtag je vois ce que je vois et j'en suis fier. Et Benny termine en disant oui, mais si le regardeur est un gros con. C'est-à-dire que c'est pas parce que le regardeur dit qu'il a vu ça que d'un seul coup, ce qu'il dit est vrai. Et tout le livre est une double enquête. D'un côté, moi, je ressens ce sentiment. J'ai le sentiment, un peu comme dans le film de Blow Up, hein, qui revient en mémoire à ce moment-là. C'est-à-dire que dans le film Blow Up, il y a un photographe qui prend un parc en photo. Et quand il développe les photos, il se rend compte qu'il y a un cadavre qui sort d'un buisson, qui est caché derrière un buisson. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'il y avait des cadavres, que Monet avait enterré quelque chose ou quelqu'un dans les nymphéas. Et je pars avec les cités d'Ella. Et l'enquête, elle est vraiment double parce que d'un côté, ou bien mon sentiment est vrai, et il va falloir le valider avec qu'est-ce que je vais découvrir, est-ce que Monet a réellement enterré quelque chose ou quelqu'un, ou bien je suis fou et il faut que je me fasse soigner. Et donc il y a ces deux, voilà, l'interprétation, la vision que peut avoir un regardeur, il faut qu'il l'éprouve aussi avec l'objet qui a suscité cette interprétation-là.
Il l'éprouve par le regard, est-ce qu'il peut l'éprouver aussi peut-être par l'ouïe?
Oui, mais c'est surtout l'enquête. C'est-à-dire que du coup, si je cherche des cadavres, bah, l'enquête démarre à ce moment-là. Donc, première surprise, hein, Monet a peint ses nymphéas, ses grands panneaux de l'orangerie, entre 1914 et 1918. Et l'idée reçue, l'idée générale, c'est que en fait, il les a peints pour oublier la guerre. Voilà, c'est toujours ce que l'on pense, comme si l'art était une façon, un divertissement. C'est-à-dire une façon de se divertir et de faire diversion. Et moi, je pense tout le contraire. C'est-à-dire que quand Monet peint ses grands panneaux, son fils est sur le front. Il a perdu déjà un premier fils 6 mois plus tôt, donc il est complètement nourri d'angoisse, d'inquiétude. Il est français, il se sent profondément patriote, il est très ami avec Clémenceau. Et du coup, ce n'est pas qu'il a oublié la guerre en peignant, voilà, c'est une impéa, c'est qu'en fait, il a peint toutes les angoisses que lui suscitait le temps de la guerre. Et ça, on le retrouve dans les nymphéas. Et quand vous dites que, alors, il y a des, voilà, un beau coucher de soleil et tout ça, voilà. En fait, on peut aussi voir, et c'est un tableau, je vois lequel vous faites allusion. En fait, il est extrêmement tourmenté, il est très flamboyant et on peut imaginer que comme il a peint au gré des nouvelles qui venaient du front, en fait, ce pourrait tout à fait être un coucher de soleil sur les Dardanelles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de tourmenté aussi dans cette peinture et il faut être à un moment donné dans un état de réceptivité, ce qui a été mon cas pour non pas voir ce qu'il y a derrière le tableau, mais de quoi, quel est l'inconscient du tableau. Parce que les œuvres d'art ont un inconscient. C'est pas juste, et qui n'est pas que l'inconscient de l'auteur. Hein. Et toute mon enquête va montrer que de tableau en tableau, il se dessine quelque chose qui est l'inconscient de la peinture de Monet, qui n'est pas totalement réductible à l'homme Monet. Et à un moment donné, votre inconscient, je pense que c'est là, quand on a un choc devant une peinture, c'est parce que c'est pas juste esthétique, c'est pas juste de l'ordre de la conscience, c'est que votre inconscient rencontre quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient de l'œuvre d'art. Et là, ça se connecte. Et quand ça se connecte, bah, il faut essayer de faire monter ça à la conscience. Et le livre, voilà, ça a été le travail du livre.
Vous avez parlé de ces questions de douleur ou de doute, de peur que peut avoir Monet par rapport à son fils qui est sur le front. Là, j'aimerais aller au-delà de l'étiquette de l'auteur, de l'homme que vous êtes. Est-ce que vous croyez que ce soit la peinture comme les autres formes d'art, la littérature, peut-être la musique, est-ce que vous croyez que ça peut être une forme de thérapie ?
Non. Alors moi, je ne souscris pas du tout à l'idée. Je pense qu'on peut écrire un drame parce qu'on l'a déjà résolu en soi. Et que là, du coup, ça peut... Mais évidemment, il y a quelque chose de cathartique. Et c'est inconscient de Monet. Enfin, moi, quand il peint ses nymphéas, il peint aussi autre chose. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est le peintre Francis Bacon disait ça. Et c'est vraiment très fort, je trouve, parce qu'il faut l'entendre. Il dit, moi, quand je regarde un tableau de Rembrandt, je vois plus Rembrandt que le sujet qu'il a peint. Parce que peindre, c'est toujours peindre deux choses à la fois. C'est peindre deux choses en même temps. C'est peindre et des nymphéas, et c'est peindre aussi toute la psyché, tout l'investissement que Monet mettait dans ses tableaux. Et ça, ce sont deux choses. Et généralement, on se contente de voir la surface du tableau, c'est-à-dire ce sont des nymphéas, c'est la nature, ça parle de son jardin à Giverny et tout ça. Mais, et on oublie la part qui appartient à Monet, qu'il peint à travers ses nymphéas et grâce à ses nymphéas.
Derrière les nymphéas, si on cherche à aller entre les fleurs des nymphéas, vous nous décrivez tout au long de cette enquête, je vais y arriver, au long de cette enquête, des doutes, des peurs, la peur du temps qui passe également aussi, vous y revenez nombreuses fois, vous revenez aussi sur les amours perdus, il faut quand même qu'on parle aussi de sa femme qui disparaît, et c'est là aussi où vous dites qu'il cherche à parler de lui, mais autant de ce qu'il voit, il ira même jusqu'à peindre sa femme sur son lit de mort, immortaliser ce moment-là. Qu'est-ce que ça dit aussi de Monet ?
Je ne sais pas ce que ça dit de Monet, mais ça dit quelque chose. Enfin, ces tableaux disent quelque chose de ça. Alors, je ne voudrais pas trop dévoiler. En fait, la bonne question...
Allez-y, je vous réponds.
Non, mais parce qu'en fait, le livre se déploie, l'enquête se déploie petit à petit. Donc d'abord, il y a cette histoire de guerre. Donc il y a quand même... si moi qui cherche des cadavres, il y a quand même tous les morts de la guerre. Hein. Enfin, ça fait 1,5 million en France, donc j'étais pas mécontent. Et puis il y a son fils qui était mort avant. Et puis il est en train de perdre la vue aussi. Voilà, et la disposition des deux salles de l'orangerie disent aussi quelque chose de la prunelle de ses yeux qu'il est en train de perdre. Bon, après son cristallin. Donc il y a tout ça. Et à un moment donné, c'était pas suffisant. Et je découvre que Monet a peint 400 tableaux de nymphéas et qu'il a peint des nymphéas pendant 30 ans. Et là, je me dis, alors on a toujours raison de se poser des questions bêtes, parce que c'est une question complètement bête. C'est pourquoi des nymphéas ? Pourquoi Monet peint des nymphéas ? Et généralement, on prend pour acquis le fait que, bah oui, Monet, les nymphéas de Monet, voilà,
son jardin.
Le problème. Voilà, son jardin, oui, mais pourquoi il cultive des nymphéas dans son jardin ? C'est quoi ce truc qu'il a avec les nymphéas ? Quand on se pose la question de pourquoi des nymphéas, en fait, on se pose trois questions. Alors la première, c'est quoi un nymphéa ? Je ne sais pas si vous savez ce que
c'est. Quel type de fleur ?
Quel type de fleur ? Sur un plan botanique et tout ça, j'ai la surprise de découvrir que c'est un mystère darwinien. Enfin, c'est un mystère de l'évolution. C'est une plante très, très particulière. Bon, OK. C'est aussi une fleur. Et alors, c'est une phrase célèbre du philosophe Heidegger hein, qui dit que quand on traverse une forêt, on traverse aussi le mot forêt. Et je découvre que Monet n'appelait pas ses nymphéas des nénuphars, surtout pas. Lui, il appelait ça des nymphéas. Et il y a quelque chose dans le mot nymphéa qui parle aussi, et notamment sur un plan gynécologique, enfin voilà, c'est aussi les fiancés, c'est aussi voilà, les vierges et tout ça. Donc ça crée un enrichissement comme ça du mot et de que peint-il vraiment, et aussi à travers le mot. Et puis je découvre, l'autre bonne question, c'est qu'est-ce que c'était qu'un nymphéa du temps de Monet ? Parce que pour nous, les nymphéas, ce sont les nymphéas de Monet. C'est cette beauté de la nature, c'est cette féerie des couleurs, de la lumière et tout ça. Mais du temps de Monet, pas du tout. C'est tout le contraire. Les nymphéas ont une réputation épouvantable. Alors, je ne vais pas tout vous raconter.
Tout divulguer.
Mais si jamais vous êtes amoureux, je vous déconseille de prendre une infusion de nénuphar. Voilà, sachez-le. Voilà. Et c'est cette plante que Monet peint. Et la dernière question que pose cette question bête en apparence, pourquoi des nymphéas, c'est qu'est-ce que lui a investi sur les nymphéas ? Pourquoi il s'est focalisé, connaissant la réputation, à tel point que d'ailleurs les paysans de Giverny ont protesté très vigoureusement et ont voulu lui interdire de planter des nymphéas dans son jardin. Enfin, c'est dire à quel point. Donc il savait, il était au courant. Donc ça, c'était très intéressant de voir, malgré la réputation épouvantable de cette plante, il tient à peindre comme ça 400 fois, il en parle en termes d'obsession. Enfin, il dit que c'est une obsession,
sur
c'est
nymphéa
et tout ça. Voilà. Sur 30 ans, pendant 30 ans, 400 tableaux, un tiers de toute son œuvre. Donc là, il se passe quelque chose et ce sont les tableaux qui vont donner la solution.
Monet, vous en avez parlé, a eu une cataracte, quand même un drame pour un peintre de ne pas pouvoir voir les couleurs. Il va donc les écrire, les lire. D'un point de vue interprétatif, est-ce que quand on est devant un tableau de Monet au musée de l'Orangerie, est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on voit le tableau, qu'on écrive ce qu'on ressente pour mieux le comprendre, ce fameux tableau ?
Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est toujours une histoire de rencontre.
Pour quelqu'un qui n'aurait peut-être pas subi la même expérience que vous et qui ne serait pas non plus en adoration qui, sans savoir déjà qui est Monet, est-ce que ça pourrait être une clé d'entrée ?
Moi, je ne sais pas. Ce que je vois, c'est que moi, ce que je trouve important, c'est d'avoir une émotion, quelque chose, ou à un moment donné, un individu, un regardeur, rencontre, enfin, voit un tableau, il se passe quelque chose. Et c'est au-delà. Alors, le problème, c'est ce que vous disiez au tout début. Hein, le problème, c'est que, en fait, on ne sait pas ce qu'on voit. On ne sait pas voir. Enfin, on ne nous a jamais appris à voir, ce qui fait que quand on va dans un tableau, tout le monde, dans un musée, tout le monde a fait cette expérience. Hein, on regarde un tableau, ok, on ne sait pas trop ce qu'on voit, donc du coup, on lit très vite le cartel, le nom du peintre, le titre de l'œuvre, l'année, et puis on revient au tableau, on dit « Ah oui, c'est un Velázquez ». Et à partir du moment où on a le mot Velázquez, on a l'impression de voir quelque chose. Et d'ailleurs, quand on va rentrer chez soi, on dit « Ah, j'ai vu un très beau Velázquez ». En fait, on n'a rien vu. On ne sait pas ce qu'on a vu.
Que la surface,
Oui, enfin, on a vu des mots. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est si vous avez une émotion, il va falloir vous débarrasser des mots tout faits pour arriver à mettre les vôtres. Et devant les nymphéas, moi j'ai rencontré plein de gens qui finalement m'ont dit, bah en fait moi quand j'ai vu les nymphéas, j'ai pas du tout été emballé par la beauté, la clarté, etc. J'ai eu aussi, et en fait il y a pas mal de gens qui j'ai découvert, mais ils n'osent pas le dire. Parce que si vous êtes là devant la réputation des nymphéas et que vous venez dire, en fait ce truc, un peu la mort, et c'est quand même des tableaux tragiques, on vous regarde d'un sale œil, on vous dit vous êtes complètement taré mon pauvre ami, enfin, il faut apprendre à ouvrir les yeux, et en fait c'est parce qu'on regarde avec des mots, et des mots qui sont des mots socialisés, qui sont les mots de l'époque, qui sont les mots du musée, qui sont les mots officiels, et il va falloir trouver ses propres mots à soi, et moi c'est l'expérience que moi j'ai faite, j'ai mis mes propres mots à moi sur les nymphéas, mais j'encourage tout le monde, à partir du moment où il a une émotion, une véritable émotion, il se passe quelque chose avec un tableau, quel qu'il soit, et bah, d'essayer de mettre les mots à lui au-delà du mot simplement Velázquez ou autre.
Votre roman prend aussi une autre dimension avec cette enquête que fait Bimor au fur et à mesure des pages que vous nous dévoilez. Il faudrait aussi qu'on s'arrête un moment, et on va le faire maintenant, au niveau de l'écriture de votre roman. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir un espèce de rapport de policier entre les mains. Plus qu'un véritable roman.
Pas de policier, pas de policier.
Si, parce qu'il y a des passages où vous...
Détective, oui, mais pas
ouais,
policier.
Ouais, détective, alors, si vous voulez.
Ah bah oui, je veux.
Oh, le détective Bimor, voilà, applaudissez-le. Merci pour lui. Parce qu'il y a quand même des passages où, justement, on voit dans la police d'écriture, vous rayez les informations, vous faites évoluer, on évolue avec le personnage constamment. Comme si, finalement, il s'imprégnait lui-même de ce qu'il voyait, de ses réflexions, presque même un dialogue à bâton rompu. Il ne s'arrête jamais et il va encore plus loin dans ses recherches.
Mais c'est un jeu. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une mauvaise façon de parler des livres. Enfin, une façon qui n'est pas mauvaise, parce que c'est une façon commune, mais parce que mon livre parle de Monet, on pense que le sujet, c'est Monet. Voilà. Alors, évidemment, je parle de Monet. Mais le sujet d'un livre, ce n'est jamais ce dont... Le sujet, c'est le livre lui-même. Si vous demandez à 10 auteurs complètement différents d'écrire en leur disant bah, « parlez-moi des nymphéas de Monet », vous allez avoir 10 livres différents. C'est bien la preuve que ce n'est pas le sujet qui fait le livre, c'est le livre qui fait le sujet. Et moi, tout mon travail d'écrivain, c'est de jouer avec les conventions littéraires. C'est de jouer avec tous les pouvoirs de la littérature et de les mettre en jeu. Donc, à un moment donné, par exemple, là, on va parler littérature un tout petit peu.
Allons-y.
J'ai un paragraphe où j'avais envie de dire quelque chose qui me tenait à cœur, et à un moment donné arrive un mot, et ce mot, il a une telle puissance, il est tellement connoté que je sais que si je l'écris, le lecteur, quel qu'il soit, va dire « Ah bah voilà, je sais, il veut dire ça », parce que le mot est trop fort. Il ira dit, et en fait, plus personne ne va entendre ce que moi j'essaye de dire, parce que le mot va tout emporter. Du coup, je le change par une devinette. Je dis, je ne vais pas mettre ce mot, je vais mettre une devinette. Alors, je vous la livre en 11 lettres. Détruit le vivant et crée des monstres. Voilà, détruit le vivant et crée des monstres. Voilà, 11 lettres.
On cherche.
Voilà. Alors, une réponse ? Non, on cherche.
Là, je ne sais plus. Non, c'est la devinette en direct ?
Oui, oui. Non, et c'est non, très drôle parce que j'étais dans une librairie. Et du coup,
qu'est-ce qui vous dit ? Je vois des doigts qui se lèvent dans la salle.
C'est très long parce que c'était complètement raccord avec le livre. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu plein de courriers de gens qui m'ont proposé des solutions. Et moi, j'étais convaincu que tout le monde allait trouver le mot, parce qu'il est tellement évident pour moi, détruire des monstres et créer, détruire le vivant et créer des monstres en 11 lettres. Pour moi, c'est évident le mot qui correspond à la définition. Et les gens m'ont proposé des mots comme confinement, écotourisme, zémourisme.
Ah oui, ils sont allés loin. Voilà.
Et je me suis rendu compte que chacun voit midi à sa porte. Et moi, j'ai vu midi à ma porte en regardant les Naféas. Et les gens ont fait pareil.
Donc, pour voir midi à votre porte, c'était quoi le mot?
Ah non, certainement pas, je vais pas là. Non, mais je le garde.
Vous allez faire des frustrés.
Non,
mais non,
pas du tout. Que chacun, au contraire, que chacun, si quelqu'un pense que c'était le mot confinement, il a des bonnes raisons de penser ça. Que c'est ça qui détruit le vivant et crée des monstres. Et c'est à lui d'aller chercher la raison pour laquelle c'est ça et pas autre chose.
Là, finalement, on va même encore plus loin dans la littérature, c'est de dire qu'une fois que vous avez écrit le roman, il ne vous appartient absolument plus.
Ah bah, de facto, il ne m'appartient plus. Et moi, alors, ça c'est très intéressant.
Par la perception du lecteur.
Parce que moi, contrairement à énormément d'écrivains qui le disent, moi, je ne fais pas du tout confiance au lecteur. Il n'y a aucune raison.
Et pourquoi?
Non, mais vous êtes fous. Enfin, vous vivez dans quel monde?
J'ai pas encore eu le syndrome de l'orangerie.
Non, mais quel lecteur? Vous avez là, on a 50-100 personnes qui, ils ont chacun une interprétation particulière, une vision particulière. Mais les écrivains qui disent qu'ils font confiance à leur lecteur, mais je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Genre pour moi, je pense qu'ils font de la com. Enfin, voilà. Mais moi, je ne fais pas confiance. Je pense qu'un livre, c'est justement une proposition qui est faite pour aiguiser l'intelligence, la sensibilité, le vécu de son lecteur et qu'il se positionne par rapport à la proposition de l'auteur. Donc moi, quand je fais cette petite devinette, j'oblige le lecteur qui veut. Enfin, il n'est pas forcé. Hein, il y en a plein. J'ai l'impression que vous vous rappelez même plus qu'il y avait cette devinette.
Et le roman est dense. Non, mais dire aussi.
C'est la liberté du lecteur. Mais il y en a qui ont pris vraiment au pied de la lettre et qui m'ont fait plein de propositions. Et je trouve que là, on est au cœur d'un processus qui appartient à la littérature. C'est-à-dire, un individu, la différence entre la littérature et tous les autres arts, c'est que la littérature, c'est quelque chose qui s'adresse à l'individu. Quand vous allez au cinéma, vous voyez un film, il fait 1h40 pour tout le monde. Un livre, il y a des gens, ils vont le lire en 3 jours, des gens, ils vont le lire en 3 mois, d'autres en 3 années, d'autres, ils vont l'arrêter. Donc, il y a une liberté, et c'est d'intériorité, c'est de l'intériorité de l'auteur à l'intériorité du lecteur. Et chacun le vit comme il le veut. Et c'est dans ce sens-là que moi, je trouve que la littérature, parce qu'elle s'adresse à l'individu, est une chose extrêmement précieuse. Ce n'est pas un art de masse, même s'il y a 100 000 lecteurs. C'est 100 000 lecteurs singuliers. Voilà, c'est de l'ordre de la singularité. C'est pour ça que c'est important.
Votre enquête avec Bimor, elle évolue.
Ah bah voilà. Je n'ai pas demandé là. Hein.
Oui, je l'avais prévenu. J'avais prévenu le public que s'ils aimaient les phrases, il fallait applaudir. Merci madame. Votre enquête, elle va très vite évoluer. À un moment donné, il y a un tournant dans cette enquête. Bimor décide de voyager à l'autre bout de l'Europe.
Est-ce que je peux vous interrompre, Thomas?
Oui, parce
que
on n'en parle pas.
Si, on peut. Non, mais je veux juste finir parce que j'étais dans une librairie, c'est sur la devinette, ça me fait rire. J'adore cette histoire, quoi. Voilà. J'étais dans une librairie et une dame, au fond, à la fin, voilà, qui posait des questions et dit, alors j'ai bien aimé votre livre et tout ça, mais moi, j'ai pas du tout aimé votre humour. Parce que le livre est drôle aussi.
Il y a beaucoup d'ironie, c'est vrai.
C'est pas de l'ironie, c'est de la drôlerie. Ironie, ce serait.
Dans sa façon de faire, là, ça va être ma perception de lecteur, mais vous allez me prendre pour fou.
Bah oui.
Ah bah voilà, donc je suis fou.
Mais soyons fous.
Bah voilà. Mais du coup, de ma manière, comme je vous ai dit, pour moi, c'était un espèce de grand récit à bâton rompu, fait par ce détective, non pas par ce policier, comme vous m'avez dit. Pour moi, dans sa façon d'écrire, j'ai trouvé qu'il y avait de l'ironie, ces petites remarques de temps en temps. Ah tiens, j'ai une idée. Oui, non, peut-être. Ah si, quand même.
C'est de la drôlerie. Pour moi, c'est pas de l'ironie.
D'accord.
Il y a pas quelque chose qui viendrait contester. Pour moi, c'est juste de l'humour. Enfin, appelons ça de l'humour. En tous les cas, cette dame me dit, écoutez, moi, j'ai pas aimé. Alors je lui demande, mais pourquoi? À quel moment, par exemple, est-ce qu'elle a un exemple? Elle me dit, à un moment donné, là, quand vous découvrez que les nymphéas, c'est vraiment pas quelque chose de vous écrivez, qui l'eût cru, l'eût cru. Et ça, qui l'eût cru, l'eût cru, ça passe pas, ça. Ça, vraiment, très bien, ok. Que dire? Enfin, compliqué. J'essaie quand même de la faire parler. Je lui dis, mais vous vous rappelez qu'il y a une devinette, à un moment donné, elle m'a fait la grimace, hein, une devinette, quelle devinette? Ben si, elle détruit le vivant, elle crée des monstres en 11 lettres. Vous diriez quoi? Et là, je vous jure, silence dans la librairie, hein, enfin, coupé au couteau, et pendant 1, 2, 3 secondes, et au bout de 3 secondes, elle dit « littérature ». Et là, j'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai dit « 11 lettres, littérature fait 11 lettres ». J'ai dit « mais quel cerveau !» Voilà. Alors je lui ai dit « écoutez madame, si pour vous, la littérature, c'est ce qui crée des monstres et détruit les vivants, je comprends que vous n'aimiez pas mon humour. »
Ah, vous pouvez l'applaudir, ah oui. Donc on reprend le fil, si vous le voulez bien. Donc je le disais, votre roman va prendre une autre dimension, quand votre personnage va faire un grand voyage vers l'Est. Moi, ça m'a surpris, ce moment-là, je vous le dis. D'un point de vue de lecteur, je suis fou, on le rappelle.
Mais c'est bien d'être surpris, non ?
Ça m'a surpris, oui, ouais. C'est vrai. Et donc, en fait, je vais quand même le dévoiler, on peut le dévoiler. Votre... Ah. Non ?
Non, pas... Enfin,
on dévoile pas.
Non, mais ah. Parce que... Non, si, si, moi, je préfère le dévoiler, moi. Ah. Si ça vous embête pas.
Ah bah alors, je vous passe le flambeau.
Parce que vous allez poser un mot, là encore, c'est les mots. Vous allez poser un mot qui va irradier et ça va être très compliqué.
Mais c'est pour ça que ça m'a surpris. Ouais. Alors, avant que Grégoire aille plus loin. On va faire un peu cette espèce de teasing, comme on aime bien faire, en radio. Il est vrai, et vous avez raison, ce mot, voilà, il en impose. Parce qu'il y a énormément de choses et tout le monde va le comprendre immédiatement pourquoi. Et c'est aussi d'où ma surprise, c'est qu'au début, quand je suis arrivé à ce passage-là, je me suis dit, où est-ce qu'il va m'emmener ? Où est-ce qu'on va ? Parce que là, je me suis dit, on part de choses qui sont radicalement opposées, et je pense que c'est aussi voulu, d'où la malice de l'écrivain que vous êtes. C'est, on part des nymphéas de Monet et tout d'un coup, boum, il y a ça. Pourquoi ? Comment ? De quel but ? Et c'est vrai que même, c'est déstabilisant pour le lecteur que j'ai été.
J'espère bien.
Donc je vous laisse le micro pour dévoiler ce fameux mot.
Mais la littérature, c'est... La bonne littérature n'est pas inoffensive.
Elle marque.
Il faut qu'il se passe quelque chose sur la page et dans l'esprit du lecteur et dans le mien. Alors... Je vais en parler. Voilà. Il se trouve que, évidemment, je devais aller voir les nymphéas de Giverny. C'est-à-dire comparer
les vrais.
Sachant que Monet a fait ce truc complètement fou. C'est-à-dire qu'il a inventé le sujet de ces tableaux. Donc, il fallait que je compare les nymphéas de Giverny avec les nymphéas de l'Orangerie, en supposant que ça n'avait rien à voir. Et de fait, ça n'a rien à voir. L'art n'a rien à voir avec la nature. Enfin, c'est pas mal de le rappeler. Mais il se trouve que, par un hasard complet du calendrier, 3 jours plus tôt, j'étais à Cracovie parce que mon précédent bouquin a eu le prix Goncourt de la Pologne. Il fallait que j'y sois pour une remise officielle, etc. Et quand en étant à Cracovie, je ne pouvais ne pas aller à Auschwitz, Birkenau. Voilà. Vous voyez, là, le mot, il passe, mais d'un seul coup, il est contextualisé et il n'a plus cette force astringente qui fait que si vous balancez le mot Auschwitz, d'un seul coup, tout le monde va s'en emparer d'une certaine façon, alors que là, je l'amène complètement différemment. Et écrire, c'est ça, c'est amener les choses d'une certaine façon pour qu'elles soient reçues au plus juste de ce que moi, j'essaye de dire. Et il se trouve que... Donc, je suis allé à Auschwitz-Birkenau. Moi, je n'ai pas de raison d'y aller quand je suis à Paris, mais à Cracovie... Je devais y aller, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc, 3 jours plus tard, je suis à Giverny, et évidemment, j'avais encore en mémoire les images d'Auschwitz-Birkenau. Et c'est comme ça que le truc s'écrit. C'est-à-dire que la vérité, si j'avais été à Disneyland avant, peut-être que j'aurais dit, 3 jours plus tôt, j'étais à Disneyland, et peut-être que ça a impacté mon regard de Giverny. Parce que le contexte, on ne regarde jamais les choses dans un état neutre. Si vous êtes en période de prospérité, vous n'allez pas voir, ou de bonheur absolu, si vous êtes amoureux et que vous allez à l'orangerie, vous allez voir ça super beau. Et si vous êtes dans un état de malheur, de détresse et autres, vous n'allez pas voir du tout la même beauté. Donc le contexte du regardeur joue énormément. Et là, moi, mon contexte, c'était 3 jours plus tôt, j'étais à Auschwitz-Birkenau. Et où j'ai vu, et alors après, la question se pose, c'est fallait-il le mettre dans le livre ? Eh bien, oui. Absolument, parce que c'était complètement raccord avec le projet même du livre. Allant à l'orangerie, j'ai le sentiment que je vais voir un truc sur la féerie de la beauté, le culte de la nature et tout ça, et ce n'est pas ce que je vois. Allant à Auschwitz-Birkenau, je pense que je vais voir la Shoah, et ce n'est pas ce que je vois. Je vois autre chose. Je vois la restitution, Georges Lieberman en a très très bien parlé, je vois la constitution d'un lieu fictif destiné à se souvenir d'Auschwitz sur les lieux mêmes d'Auschwitz. C'est très compliqué. Et il y a des choses qui m'ont scandalisé. Alors, je ne vais pas les raconter là maintenant parce que ça n'a pas de sens. Il faut les découvrir dans le temps de la lecture. Et puis, alors, ça faisait déjà 2 très bonnes raisons. Une raison honnête et vraie, c'est que je suis allé à Giverny avec en tête les mémoires, la mémoire de ce que j'avais vu à Auschwitz. Et puis, il y avait un autre chose qui était que moi, je suis assez intéressé par ce qui se passe dans le monde. Et il y avait eu le Hamas qui fait ces ignominies, ce massacre en Israël. Il y a la réplique d'Israël aussi qui est compliquée. Et tout ça me traverse. Et tout ce passage-là est traversé par une phrase qui revient en permanence, qui est « les nazis sont de retour ». Et je dis que les nazis étaient de retour. Et ça, c'était une façon aussi de parler du contexte. Et parler du contexte, je tombe, et il faut avoir de la chance quand on mène une enquête de détective, hein, pas de policier, parce que je ne mets personne en prison à la fin, il faut avoir de la chance. Et je tombe sur le tout début du film Nuit et brouillard, que j'espère tout le monde connaît, dont le commentaire est fait par le résistant Jean Cayrol, et le tout début du livre, mais je peux vous le lire, c'est page 180.
Vous voulez que je vous aide ?
Non, je vais le trouver, c'est 180. Hop.
L'avantage, c'est qu'on n'est pas filmé.
Alors, c'est drôle, je vous le lis. Hein.
Mais allez-y. Non, okay.
C'est drôle, ce n'est pas drôle du tout, mais le film Nuit et brouillard d'Alain René s'ouvre sur de lents travelling du camp d'Auschwitz avec la voix de Michel Bouquet, lisant le texte écrit par l'ancien résistant Jean Cayrol, et je cite, « Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. » Jean Cayrol aurait pu ajouter même de magnifiques nymphéas flottant dans la lumière d'un merveilleux bassin. Comme quoi, il n'y a peut-être pas si loin de la beauté à l'horreur, beaucoup moins loin que je ne le pensais jusqu'ici. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'était entre la folie de la mort des nazis à Auschwitz et la vie à la folie à Giverny, parce que je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Giverny, mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y a des fleurs absolument partout, et c'est un truc, on voit qu'il y avait une folie de Monet avec ses fleurs et ses nymphéas notamment, et vraiment il y a quelque chose qui se répondait tellement merveilleusement et atrocement bien que évidemment le livre prend en charge la folie de la vie et la mort à la folie, voilà, et les deux se télescopent comme ça. Donc il y avait plein de raisons qui étaient le contexte, les nazis sont de retour partout, hein, vous avez un Elon Musk qui fait le salut nazi, enfin genre, allons-y. Et du coup, c'était une façon de à un moment donné, ça traverse l'écriture et ça se retrouve dans le livre.
Et c'est peut-être du coup ce que vous avez ressenti.
Oui, bien sûr.
En voyant ce syndrome de l'orangerie. En allant, je vais citer moi aussi un passage de votre livre à la page 163, où justement vous convoquez aussi des grands auteurs littéraires qui ont été lus par Monet également. Et vous parlez justement d'Edgar Allan Poe. Il y a de nombreuses références avec ses nouvelles dans votre roman. Et puis vous citez ce morceau. « Même les paysages riants de Monet ont quelque chose de répulsif, parce que chez lui, la beauté est cause de mort et la mort source de beauté. Pour chacun d'entre nous, la nature est liée à la mer, nourricière et enveloppante. Mais chez Monet, la mer était devenue précocement un cadavre, et même le cadavre d'une belle femme morte. Ainsi, ces paysages, même les plus fleuris, ont quelque chose de morbide. C'est toute de l'accalmie et le spectre même de la peur. Dans son accalmie perfide, elle enveloppe les tempêtes et les morts. Elle est un parfait cadavre liquide. Au vrai, chez Monet, la mort apparaît toujours placée dans une lumière spéciale. C'est la mort fardée des couleurs de la vie. » Est-ce que Monet a besoin d'une analyse ?
De toute façon, il n'est pas là, donc...
Est-ce qu'il aurait peut-être eu besoin ?
Non, mais l'art nous pose une question. Donc, ce n'est pas une histoire d'analyser. Il se passe quelque chose, autant y aller. Enfin, là, il n'y a pas de prévention à avoir... Non, pas du tout. Dans ce passage-là, j'étais totalement surpris. Gaston Bachelard, le philosophe, va voir les nymphéas de l'Orangerie en 1949. Et lui aussi éprouve un sentiment de malaise, et notamment par rapport aux eaux dormantes et tout ça. Et il cite... Alors j'étais content parce que ça voulait dire que j'étais pas tout seul à trouver qu'il y avait un problème, un sentiment problématique. Enfin, pas problématique, mais un sentiment... pas joyeux, en tous les cas, quand on peut éprouver en regardant les nymphéas de Monet. Et lui, il écrit une phrase, il écrit notamment des choses sur la morbidité des eaux dormantes, et il fait référence à Edgar Poe. Et là, je tombe sur Edgar Poe, et je commence à m'intéresser à Edgar Poe, et alors je suis fasciné, parce que Edgar Poe est l'écrivain de l'eau, comme Monet a été l'écrivain de l'eau. Et Edgar Poe, toute l'œuvre d'Edgar Poe tourne autour de la figure de la mère qui est morte et de la femme qui est morte aussi. Toute son œuvre, Ligia, Annabelle, et d'un seul coup, il se passe quelque chose qui est qu'entre la biographie de Monet et la biographie d'Edgar Poe, il y a énormément de points de communs. Ils ont perdu tous les deux leur mère
jeune. Tous les deux visent quelque chose qui, que Edgar Poe a appelé la théorie de l'effet et que Monet a théorisé sous la forme d'impressionnisme, c'est-à-dire viser l'effet qui fait que quand vous êtes devant un tableau, vous voyez pas grand-chose, mais quand vous de Monet et quand vous reculez, d'un seul coup, vous voyez le tableau. Donc cette théorie de l'effet, il y a énormément de choses. Tous les deux ont aimé une femme passionnément qui a été leur épouse. Toutes les deux sont tombées malades, ont agonisé pendant des années, pendant plus de 3 ans. Avant de mourir, et tous les deux, ça les a profondément marqués. Et donc, là, je me dis, mais c'est tout à fait incroyable. Et je me dis, mais se pourrait-il que Monet ait lu Edgar Poe ? Et là, je dis qu'il faut avoir de la chance dans une enquête, c'est-à-dire que je découvre que Monet était un très grand lecteur et qu'il possédait 700 livres dans sa bibliothèque. 700 livres, il faut imaginer, hein, on est fin 19e, 700 livres. Il n'y a pas Amazon à l'époque. Hein. Enfin, je dis, c'est 700 livres, voilà. Et deuxième coup de chance, je découvre que des universitaires ont eu la très bonne idée de recenser sur Internet tous les livres de la bibliothèque de Monet. Je me précipite, je parcours, il y a quand même beaucoup de pages, tout ça, et il y a tous les livres d'Edgar Poe. Donc Monet a lu tous les livres d'Edgar Poe. Et là, il y a vraiment quelque chose qui fait que moi qui cherche à mettre des mots voilà, sur cette histoire des nymphéas, eh ben, Monet aussi. Et Monet était très ami avec Mallarmé, enfin, voilà, avec Zola, il a été ami avec Zola, tout ça. Donc il y a aussi une histoire du langage. Il n'y a pas qu'une histoire picturale, même si Monet fait de la peinture. Mais il y a aussi, c'est aussi nourri de mots, parce que lui aussi est un être de langage, même si lorsqu'il peint, eh ben, évidemment, il excède le langage ou il est en deçà du langage. Mais donc c'est nourri de tout ça, quoi. Donc moi j'étais ravi de voilà, donc il y a tout un passage évidemment sur Edgar Poe.
À vos yeux, la peinture est un langage ?
Oh bah oui, mais ce n'est pas le langage.
On reste avec les mots pour le langage.
Non mais Francis Bacon disait mais si on peut le dire, à quoi bon le peindre ? Voilà, donc c'est une réponse.
Rassurez-nous, depuis ce syndrome de l'orangerie, est-ce que
j'espère vous rassurer, oui.
Oui,
vous êtes inquiet.
Un petit peu Thomas. Pour la suite, pour la question qui arrive. Je suis inquiet. Est-ce que vous êtes retourné au musée de l'Orangerie depuis votre syndrome ou est-ce que ou pas du tout ?
Ah bah oui.
Et
j'ai
alors
même fait une lecture musicale devant les nymphéas à partir de ce livre.
Donc tout s'est bien passé ?
Mais très bien.
Est-ce non, que vous avez revu des cadavres ?
Pas du tout.
Vous avez revu quoi alors ?
Bah j'ai vu ce que tout le monde voit. J'ai
de
rien
l'eau.
Vu. Non, j'ai vu des tableaux. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien éprouvé. Mais parce que tout le sentiment, mais c'est le dernier chapitre du livre dont on ne va pas parler, mais qui
non,
explique
bah surtout pas.
Dans quel contexte moi j'ai vu ces nymphéas. Et c'est bien parce que j'ai écrit le livre et que j'ai épuisé en fait et mon sentiment et la vérité que ce sentiment découvre à l'intérieur des toiles de Monet, qu'à un moment donné, bah, je peux voir maintenant les nymphéas de façon tout à fait normale et tranquille et presque indifférente. Enfin, bon, moi, les nymphéas, ils sont maintenant dans le livre, quoi. Avec l'émotion qu'ils m'ont suscité.
Et même si vous ne voyez que des tableaux tels que tout le monde les voit, est-ce qu'il y en a un qui trouve peut-être un peu plus de charme à vos yeux que les autres sur les 8 qui sont à l'Orangerie ?
Ah non, mais tout est très bien. Enfin, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, parce qu'il est très troublant, là, pour le coup. C'est les nymphéas, les nuages. Mmh. Et alors, tout. C'est une histoire un peu connue où on a l'impression que dans les nuages qui se reflètent hein, dans les temps, qui fait que Monet a mis le ciel en bas. Enfin, c'est quelque chose de. On aurait pu parler peinture aussi. Et à un moment donné, dans les nuages, les gens ont cru voir ce qu'on appelle une pareidolie, c'est-à-dire ce qui fait que quand vous regardez un nuage, vous voyez d'un seul coup un homme barbu en train de fumer la pipe, enfin voilà, ou une chèvre, un cheval qui galope et tout ça. Et là, les gens dans les nuages on voit un visage qui ressemble et les gens disent ah, en fait Monet s'est représenté lui-même. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que sur la droite du tableau, il y a une énorme masse noire. Vraiment qui est vraiment extrêmement qui est vraiment quelque chose de très angoissant parce que cette masse noire qui arrive comme ça et quand on la regarde le profil, je suis encore de la pareidolie, mais on dirait vraiment le portrait du diable. Enfin, il y a quelque chose de Belzébuth et c'est très très net, on voit la corne, le front, le nez, la bouche, l'œil. Voilà, donc c'est ce panneau-là qui me trouble le plus aujourd'hui, mais pour le coup, ça c'est de l'ordre du détail. Ça ne dit rien de ce que Monet a réellement enterré, voilà, qui est notamment le deuil de sa première femme, voilà.
Mais ça, après, il faut le découvrir dans le livre aussi.
Oui.
On ne peut pas tout dire non plus.
Bon, on n'a rien dit, là.
Ah, vous trouvez qu'on n'a rien dit ?
Non.
Rien du tout ?
Non, mais on a essayé de dire.
Ah ! Du point de vue de lecteur, c'est ça.
Oui. Bon, non, mais moi aussi, j'essaye de dire. Hein. Quand j'écris le livre, en fait, c'est difficile d'en parler. Je peux pas en parler parce que.
Parce que vous confrontez des perceptions.
Voilà, non, c'est pas ça. C'est que. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire quelques fois en librairie. En fait, ça marche pas du tout. Donc,
on essaye là avec le public qu'on a.
En fait, moi, je suis écrivain quand j'écris.
Donc, le résultat, vous êtes quoi?
Je suis
Grégoire Bouillet.
Grégoire Bouillet, bêtement Grégoire Bouillet.
Ok.
Ou voilà. Mais vraiment,
ça revient un peu avec ce que vous disiez au début du roman. Et ce qu'on a dit aussi, c'est que l'œuvre, les nymphéas de Monet, ne peuvent exister uniquement parce qu'on les voit. Donc vous ne pouvez exister en tant qu'écrivain uniquement parce que vous écrivez.
D'abord, je suis non, c'est pas la même chose. Moi, je pense que les nymphéas de Monet existent même si on ne les voit pas. Ça, si un arbre, enfin voilà, c'est le fameux paradoxe mathématique. Enfin, si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce que l'arbre tombe quand même dans la forêt? Il y a des gens qui disent non, les choses n'existent que parce que quelqu'un est là pour en témoigner. Et moi, je pense que non, les choses existent par elles-mêmes. Voilà. Et c'est pas la même chose. Quand je dis que, en fait, je suis écrivain quand j'écris. C'est-à-dire que quand je mange, je ne suis pas écrivain. Quand je vais au cabinet, je ne suis pas écrivain. Je suis désolé. Peut-être qu'il y a des gens qui sont artistes même quand ils vont au cabinet, pas moi. Mais tout ça pour dire que là, en ce moment, je ne suis pas en train d'écrire. Donc vous croyez recevoir l'écrivain Grégoire Bouillet, mais non, vous ne recevez que Grégoire Bouillet, que le représentant de l'écrivain. Et il y a des choses que l'écrivain a faites dont je ne sais pas exactement. Je ne peux pas en parler. C'est pour ça qu'il y a toujours quelque chose de compliqué à en parler, parce que si j'étais en train d'écrire, je pourrais écrire ce que j'ai essayé d'écrire, parce que ce serait l'écrivain qui prendrait la main. Mais là, je ne suis que le représentant de l'écrivain. Et ça ne marche jamais. Quand je suis en public, les gens disent, ils sont venus voir l'écrivain. Et alors, il dit, si c'est pas l'écrivain, alors c'est qu'on s'en fout de lui.
J'espère que c'est pas la vie qui est partagée dans la salle, quand même.
non, mais voilà.
Voilà. Ils sont très réactifs. Le printemps du livre, c'est l'occasion donc de rencontrer des auteurs, les vrais, dont vous finalement, on va le dire. Mais avant d'être écrivain, vous êtes aussi lecteur. Vous aimez beaucoup lire, je l'espère. Grégoire Bouillet, vous avez un coup de cœur littéraire à nous partager. Le micro de la librairie des étudiants reste ouvert et on vous écoute.
Alors c'est très gentil. Alors c'était un truc qu'on m'avait demandé de préparer parce qu'il y avait un book club. Et du printemps, voilà. Je pense que j'étais autour d'un bon verre ou de deux ou trois et j'ai complètement oublié de. Voilà. Et en même temps, ça m'agaçait parce que j'ai écrit un petit texte sur un livre. C'est un livre que j'ai offert un nombre incalculable de fois. C'est le livre que j'offre à chaque fois, lui aucun autre, depuis que je l'ai lu il y a environ une vingtaine d'années. Comme si ce livre était une espèce de carte de visite, disant mieux que tout qui je suis, disait qui je suis en disant ce que j'aime. Sachant que je ne sais pas pourquoi j'aime autant ce livre. Peut-être parce que très peu de gens l'ont lu. Car si je pose la question, la réaction est chaque fois incrédule et chaque fois je trouve cela injuste. Cela me confirme que quelque chose ne va pas dans ce monde. Oui, mais c'est tellement gratifiant d'aimer ce que personne ne connaît. On se sent privilégié. C'est un secret qui tient chaud et qui élève. C'est un trésor qu'on n'a pas envie de dilapider, comme un filon qu'on aurait découvert dans le Klondike. Et pas question que d'autres viennent piller l'endroit, à l'instar de tant de lieux magnifiques saccagés par le tourisme de masse. C'est pourquoi je n'offre ce livre qu'aux personnes que j'aime ou dont je veux me faire aimer. Certains livres exigent des lecteurs à leur hauteur. Certains livres font le tri dans nos connaissances. Cependant, c'est faire du tort à ce livre que de le garder pour moi seul. Je déteste dire « il faut », je déteste tous les impératifs, mais il faut avoir lu ce livre parce que ce livre embellit celui qui le lit et par voie de conséquence, il embellit le monde. J'aime ce livre pour ses phrases, pour sa langue, pour son style, un trait, une flèche. Aucune fioriture, pas de description, juste l'essentiel. Et dans cette concision, il y a toute la tendresse du monde. Ici, la sécheresse du style est l'émotion. J'aime ce livre parce qu'il est écrit par une femme et qu'on ne s'en doute pas à la lecture. Cela change des livres qui exhibent leur sexe, quel qu'il soit, comme si c'était une qualité littéraire. J'aime ce livre parce qu'il donne envie de connaître son auteur, Dorothy Mary Johnson, 1905-1984. Pourtant, elle était femme teigneuse, rebelle, récalcitrante, qui se battait comme un garçon quand elle était gamine et qui, de sa vie, ne mâcha jamais ses mots, une dure à cuire. Petite, on lui lavait la bouche avec de l'eau et du savon quand elle disait un gros mot, et pour les bêtises, c'était des coups de tuyau d'arrosage et autres châtiments corporels. Comme quoi, on peut toujours s'en sortir. J'aime ce livre parce qu'on lui doit quelques-uns des plus grands westerns au cinéma. L'homme qui tua Liberty Valance, Un homme nommé Cheval, La prisonnière du désert, La colline des potences. Et parce que Dorothy Johnson ne crut jamais devoir se montrer reconnaissante envers le cinéma à qui elle dut pourtant de devenir célèbre outre-Atlantique. Au contraire, elle fuminait contre les adaptations qui, à l'écran, dénaturaient ses livres en racontant n'importe quoi sur les Indiens et en caricaturant leurs mœurs et leurs croyances. J'aime ce livre parce qu'on croit qu'il s'agit d'histoires de cow-boys et d'Indiens, alors qu'il s'agit de tellement autre chose. Il ne s'agit pas d'une littérature de genre, il s'agit de littérature tout court. J'aime ce livre parce que son truc, à Dorothy Johnson, c'est la réalité de l'Ouest américain contre la légende du western. J'aime ce livre parce que Dorothy Johnson, dans son autobiographie, hélas non traduite en français, a ces mots. Si seulement je pouvais m'arrêter de boire. Si seulement je n'étais jamais né. Si seulement j'avais écouté mes parents. Si seulement je pouvais mourir. Si seulement aujourd'hui pouvait durer toujours. J'aime ce livre parce que les Indiens Blackfoot firent de Dorothy Johnson un membre honoraire de leur tribu. Ainsi devint-elle celle qui tue les deux endroits. Kill the both place. Ce qui, d'elle, dit quelque chose qui me plaît et dit quelque chose des Indiens Blackfoot qui me plaît tout autant. J'aime ce livre parce qu'il est proche de ce que j'écris ou que j'aimerais écrire, même si on ne le dirait absolument pas. J'aime ce livre pour le titre de ses nouvelles. Au réveil, j'étais un hors-la-loi. Journal d'aventure. L'homme qui connaissait le Buxingkind. L'exil d'un guerrier. Flamme sur la plaine. Une époque de grandeur. Une dernière fanfaronnade. Et toujours se moquer du danger. Et toujours se moquer du danger. Une dernière fanfaronnade. J'aime ce livre pour les premières lignes qui ouvrent chaque récit. Je cite. Quand il eut tout tenté pour sauver sa vie, il envisagea la possibilité d'échouer. Je cite. C'était un jeune homme de bonne famille et les raisons de sa profonde insatisfaction n'étaient pas très claires, même pour lui. Il voulait vivre parmi ses égaux, des gens qui ne seraient ni meilleurs ni pires que lui. C'était le mieux qu'il put faire pour décrire la source de sa tristesse à vivre à Boston et son désir d'aller ailleurs. Je cite. Le dimanche matin, un chef Sioux, noté Little Crow, assista au service religieux de l'agence de Lower et serra la main du pasteur après la cérémonie. Le dimanche après-midi, les Sioux Santé de Little Crow fondirent sur les colons, peints et coiffés de plumes, et se livrèrent à un massacre sanglant. Il n'y eut pas d'avertissement. Il n'y a jamais d'avertissement dans les récits de Dorothy Johnson. J'aime ce livre parce que sur les photos, Dorothy Johnson ressemble à ma mamie, qui n'était pas commode, et ma mère en sait quelque chose. J'aime ce livre parce qu'ils sont deux et seulement deux traduits en France, « Contrée indienne » et « La colline des potences ». Mais ces deux recueils de nouvelles sont un seul et même grand livre écrit par un auteur qui, selon moi, est un des plus grands écrivains américains, même si personne ne s'en doute ici, même si Dorothy Johnson est morte il y a 40 ans sans que personne n'ait songé à célébrer cet anniversaire l'an dernier. Alors que Dorothy Johnson publia une vingtaine de romans et de non-fictions qui se vendirent à des millions d'exemplaires aux États-Unis, comme quoi la plus haute qualité littéraire peut donner des best-sellers. J'aime ce livre parce que Dorothy Johnson fit inscrire cet épitaphe sur sa tombe « Paid ». Juste paid, payé. Qui dit mieux en aussi peu de mots? Je ne sais pas pourquoi j'aime ce livre, je suis incapable de dire exactement, intimement, mystérieusement pourquoi j'aime autant ce livre, mais je sais que je l'aime. À vous de le lire, j'espère.
Merci Grégoire.
Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à toi Thomas.
Merci infiniment. Vient arriver le moment fatidique des questions du public, s'il y en a. Je sais que la première est toujours la plus intimidante à poser.
On va passer à la deuxième question tout de suite, autant.
Oh, la deuxième tout de suite. Alors, on laisse tomber la première. Voilà. Ouais, qui a la deuxième question? Où est-ce qu'il n'y a pas de question? Où est-ce que vous allez peut-être monter à Paris, filer voir Monet à l'Orangerie?
Peut-être sur le prochain livre.
Sur le prochain livre?
Ah. Parce qu'il y a des pistes, quand même, dans votre livre.
Par exemple.
Prenez le micro.
Le dernier chapitre.
Ah oui, mais alors on va pas parler d'un chapitre.
Non,
et...
non, mais...
on peut pas divulguer.
Mais est-ce qu'il y a un autre livre qui germe?
Pour l'instant, non, pas du tout. En fait, Je suis pas un écrivain qui écrit un livre tous les ans ou tous les deux ans. Enfin, voilà, moi, il faut qu'il y ait une histoire qui m'appelle. Enfin, il faut qu'un livre m'appelle. Et là, je suis plutôt en train de réfléchir à... Là, mon précédent, c'était une enquête vraiment au long cours avec les archives. Là, je suis en train de me rendre compte. Moi, j'écris beaucoup en tenant compte du contexte. Et tous mes prologues, d'ailleurs, sont toujours une façon de dire non. Parce que c'est ça qui me permet de dire oui à autre chose. Donc d'abord, je commence par dire non. Et là, je suis en train de voir qu'il y a énormément de livres qui fonctionnent sur l'enquête, les archives. Là, c'est devenu un nouveau truc en littérature. Du coup, je me dis, je vais peut-être aller traîner mes gâtres ailleurs. Voilà. Il faut trouver, défricher des nouveaux continents.
Oui, bonjour. Est-ce que le lieu qu'a voulu que soient installés, accrochés ces tableaux pour le lieu dans la salle de l'orangerie, est-ce que ça a pour vous une importance?
Pour moi, non, mais pour Monet, ça en avait une.
Oui, je énorme. Sais, mais dans votre livre... Peut-être qu'il y a une histoire avec.
Vous pensez à
pourquoi
quelque chose,
j'ai l'impression. Pourquoi ce lieu voulait vraiment cette installation, cette façon de l'installer, de ce côté arrondi
Oui, les deux salles. Bah ça, je réponds. Le livre répond à la question.
Le livre, voilà, c'est ce que...
Voilà.
Oui. Ah, d'accord. Le livre répond à la question.
Ah, bah oui, bah c'est totalement lié à sa cataracte. Et ah bah oui, parce que quand vous regardez... En fait, Monet tenait absolument... Ça a été toute une histoire hein, pour installer les nymphées à l'orangerie.
Oh, oui,
ça a mis
sais,
des
oui.
années. Clémenceau
oui,
a,
oui, oui, oui.
a vraiment l'a aidé. Il n'était pas commode, hein, Monet. En fait, c'était pas le mec qu'on invite à boire un coup et pour discuter simplement. Enfin, Clémenceau l'appelait son vieil hérisson. Quoi. C'est
oui.
dire à quel point le mec piquait. Quoi.
Oui, oui.
Et vraiment, il savait exactement comment il voulait oui. présenter... Voilà, dans deux salles circulaires, enfin ovoïdes, voilà, comme
oui.
une vague. Voilà. Et à tel point que moi, j'ai retrouvé les plans sur lesquels Monet a travaillé avec l'architecte Lefebvre. Et quand vous regardez le plan, bah, vous comprenez. Et voilà.
D'accord. Et c'est dans le livre.
Et ça, c'est dans le livre. Et il y a la reproduction du plan. Et je ne vais pas vous en dire plus. Mais c'est vous bien. Comprenez. Et c'est totalement lié à la cataracte de Monet.
D'accord. Très bien. Merci.
Non, je vous en prie.
Bonjour.
Bonjour.
Je me demandais si, depuis la sortie du livre, vous aviez eu l'occasion de rencontrer des historiens de l'art. Et, parce que vous apportez un éclairage tellement nouveau et parfois presque implacable. Enfin, j'ai très envie de revenir. Je pense notamment au lien entre la peinture qu'il a fait de sa femme, de ce voile et... J'ai eu l'impression de n'avoir jamais rien lu de tout cela, parce qu'après j'ai été regarder un peu ce qu'en disent les historiens de l'art, bêtement un peu sur tapant sur Google pour voir des et ça ouvre des portes qui ont dû susciter peut-être des interrogations, une nouvelle façon de voir faire de l'histoire de l'art justement avec sur le mode de l'enquête et voilà des découvertes qui semblent prodigieuses qui n'avaient encore jamais été soulevées ou justement ce lien avec Alan Poe, enfin voilà.
Alors, bah, merci beaucoup, parce que c'est une question que, bien évidemment, moi j'appelle aussi mon éditrice et tout ça, en disant bah, comment les historiens de l'art vont bien. J'ai fait une rencontre avec une éminente historienne de l'art qui s'appelle Laurence Bertrand d'Orléac, une émission chez Patrick Boucheron, France Culture. Et alors, donc j'ai lu son livre, on me l'a envoyé, donc moi que je ne l'avais pas lu avant le. Voilà. Et elle consacre plus de 100 pages au lien entre Monet et la guerre. Et elle aboutit à des conclusions assez semblables aux miennes, c'est-à-dire que, évidemment, les grands panneaux ne sont pas un hymne à la paix, c'est un monument aux morts. Mais ce qui est rigolo, c'est que Monet appelait ces grands panneaux, pendant toute la guerre, en public et en privé, les grands panneaux, il les appelait ses grandes décorations. Et on entend, évidemment, à cause du côté décoratif. Et vraiment, à chaque page, sur les 100 pages de Bertrand d'Orléac, il y a ce mot décoration. Et moi, quand je tombe dessus, parce que évidemment, toi, moi, j'entends, ok, côté décoratif, la peinture, mais j'entends ce que ce mot a de militaire. dans le contexte de la guerre de 14. Enfin, comment passer à côté? Et quand je lis le livre, j'étais... Alors, de façon un peu présomptueuse, j'ai dit, je pense que personne n'avait vu ça. Je l'avais lu nulle part. Et quand je lis ce livre, qui est vraiment consacré, il y a toute une partie consacrée à Monet, à la guerre, le mot décoration est à chaque page. Et je me dis, bon, OK, à un moment donné, elle va bien voir. Elle va... Et en fait, non. Et quand je la croise à l'émission de Patrick Boucheron, elle me voit de loin, dit, j'ai adoré votre livre, mais comment j'ai fait pour ne pas voir? Non, mais c'est hallucinant. Et parce que mon sentiment, c'est que elle, elle est dans une histoire de l'art, elle est dans l'histoire esthétique. Et elle est... moi, je cherchais des cadavres. Donc, c'était normal que j'ai cet œil-là pour entendre que dans décoration, j'entends autre chose qu'un rapport esthétique, un rapport culturel. Moi, j'étais dans un rapport biographique. Qu'est-ce qui se passe chez Monet? Et quand il dit ça, voilà. Et moi, j'avais les oreilles un peu, l'œil un peu plus focalisé sur certaines choses et les oreilles un peu plus ouvertes, peut-être, qu'elle. Et elle n'en revenait pas, quoi. J'ai dit d'être passé à côté d'une évidence pareille. Mais parce que, en tant qu'historien de l'art, ce qui l'intéressait, c'est le mouvement artistique, c'est l'esthétique. Et comme je le dis, enfin, moi, j'ai plein d'historiens qui ne relient pas le contexte de la guerre. Ils disent, ils savent, tout le monde sait que Monet a peint entre 1914 et 1918 ces grands panneaux de l'Oranger. Tout le monde le sait. Mais ce contexte-là, il est séparé de l'histoire esthétique de Monet. Et moi, j'ai juste fait le lien. Parce que moi, j'ai mis le bonhomme derrière les nymphéas. Il y a quelqu'un qui peint, quoi. Et en fait, l'une des bonnes questions un jour qu'on m'a posée, c'était mais alors, du coup, vous êtes plutôt du côté de Sainte-Beuve que contre Proust? Bonne question. Et je dis, oui, sauf que Proust lui-même, il a peut-être écrit son contre Sainte-Beuve, hein, c'est-à-dire en fait le biographique n'a rien à voir avec l'œuvre. Lui, il défend l'idée. Moi, je peux comprendre aussi pourquoi, quel intérêt particulier Proust avait de plaider pour une dissociation complète entre l'œuvre et d'une certaine façon, il a évidemment raison. C'est-à-dire que quand j'écris, et ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'écris, je ne suis pas exactement Grégoire Bouillet. Quelqu'un qui n'a pas de nom sur lequel Grégoire Bouillet met un nom, mais je suis deviens l'écrivain comme vous, comme je sais que vous êtes aussi autrice. Quand vous dessinez, je pense que vous devenez dessinatrice et vous n'êtes plus exactement la femme qui a avant de dessiner ou après de dessiner. Donc ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il y avait un intérêt stratégique un petit peu, enfin psychologique plutôt. Proust était homosexuel, très mal vu. Il a même provoqué en duel un journaliste qui avait osé émettre une idée sur sa sexualité. Il l'a provoqué en duel. Non, faut imaginer quand même le truc, quoi. Le mec est homosexuel, on le dit, et il dit, vous m'insultez, et voilà. Donc, évidemment, il avait intérêt à ce que découpler l'être qui écrit de l'homme Marcel. Enfin, voilà. Mais en même temps, quand on lit À la recherche du temps perdu, Marcel Proust, sa biographie, elle est partout, tout le temps. Donc c'est deux phénomènes qui se recoupent et qu'on ne peut pas séparer comme ça. Que moi, je me refuse absolument de séparer. Je pense que le biographique est un moyen d'investiguer l'art d'un artiste, sachant, et vraiment je dis là-dessus, c'est que l'enquête, elle n'est pas, c'est pas j'oppose le biographique ou j'explique l'art à travers le biographique, c'est à l'intérieur des tableaux. C'est-à-dire, quand je fais le lien entre les éventails de la japonaise et les nymphéas, ça n'a rien à voir avec le biographique. Ce sont les tableaux eux-mêmes qui portent cette biographie-là, et c'est l'inconscient de l'œuvre d'art. C'est pour ça que je parlais de l'inconscient de l'œuvre et non pas de l'inconscient de l'artiste, qui n'est pas exactement le même, parce que les tableaux portent ça en eux. Et que Monet l'ait su ou pas. Et je pense qu'il ne le savait pas, moi. C'est ma théorie.
Merci. Je me demandais, en fait, qu'est-ce qui déclenche chez vous l'envie ou le besoin d'écrire? Parce que, voilà, qu'est-ce qui est déclencheur? Est-ce que vous arrivez à le... Quand vous regardez tout ce que vous avez déjà écrit, est-ce que vous avez à chaque fois identifié ce qui a été le déclencheur?
Si je le savais, peut-être que je n'écrirais plus, déjà. Et vraiment, je ne peux pas le savoir. Et c'est une question vraiment intéressante, parce que... maintenant, en tous les cas... Mon précédent livre posait la question de, puisque c'était sur un fait divers que j'avais entendu dans les années 80, qui m'était resté en mémoire et tout ça, et puis par un concours, heureux concours de circonstances, je tombe sur quelqu'un qui me donne une piste et qui me permet de retrouver qui était cette ancienne mannequin qui s'était laissée mourir de faim et tout ça. Et là, je me lance dans l'enquête pour essayer de comprendre qui était cette femme, où se trouvait le journal de son agonie, etc. etc. Mais tous les livres procèdent bien évidemment d'une impulsion de départ. Et cette impulsion de départ, je ne la connais pas. L'impulsion, voilà, m'engage à écrire le livre. André Breton parlait de... Il y a une scène que moi que j'aime beaucoup, c'est un jour André Breton est dans sa chambre, il somnole à moitié et d'un seul coup il entend une phrase qui dit un truc genre « je vois un homme par la fenêtre, coupé en deux par la fenêtre ». Il dit « qui a dit ça ? C'est dans ma tête, c'est de la voisine ». Il ne sait pas d'où vient cette phrase, mais il dit « elle a cogné à ma vitre ». Et c'est à partir de là qu'il a théorisé toute l'écriture automatique. On trouve ça dans son manifeste du surréalisme. Et c'est exactement ça. Quelque chose cogne à ma vitre. Et là, d'un seul coup, ma vie devient voilà, je me lance dans l'écriture, c'est du 10 heures par jour. Enfin, ma vie devient le livre que j'écris. Le livre que j'écris devient ma vie. Le reste du temps, non, je ne suis pas un graphomane, quelqu'un qui écrirait tout le temps. Mais quand le livre arrive, là, j'y vais à fond, quoi. Enfin, voilà, parce que c'est un bonheur, c'est une euphorie, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'abord, je me sens justifié d'être sur Terre quand j'écris, ce qui n'est pas le cas le reste du temps. Et vraiment, j'ai un truc à faire, j'ai une mission, je suis en mission. D'ailleurs, je pense que je ne peux pas mourir le temps que j'écris. Et ça s'est vérifié. Enfin, jusqu'à présent, ça se passe bien. Donc,
remettez-vous à écrire, alors.
Oui, mais ce n'est pas moi qui décide. Et je pense que c'est bien que ce ne soit pas moi qui décide. Et peut-être que ça mettra très longtemps. J'ai mis 10 ans avant d'écrire entre un livre et puis le deuxième. Alors bon, dans ces 10 ans, j'ai écrit longtemps aussi les 2000 pages du deuxième. Mais ce n'est pas moi qui décide. Et c'est pour ça que tous mes livres... On m'a demandé, par exemple, l'enquête sur Marcel Pichon. Mais je pourrais encore travailler dessus. Et c'est là où je trouve, moi je suis un écrivain du réel, moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe dans la réalité, les nymphéas de Monet existent, moi je ne suis pas un romancier, je ne suis pas un écrivain de l'imaginaire, enfin, même si je mets beaucoup de mon imagination dans la réalité, mais c'est parce que c'est pour être à la hauteur de l'imagination de la réalité. Pour moi, la réalité a une imagination absolument incroyable. Enfin, voilà. Donc c'est ça que j'essaye de restituer et d'élucider. Et vraiment, l'histoire de Marcel Pichon, je pourrais encore travailler dessus. Mais la réalité n'est pas le livre. Le livre crée un autre espace. Et en fait, le livre s'est arrêté. Pourtant, il fait 900 pages. Hein, mais s'est arrêté le jour où j'ai découvert pourquoi ce fait divers-là m'avait à ce point intéressé. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'était passé entre moi et ce fait divers? Et ça fait partie de l'enquête. Et le jour où je le sais, en fait, le désir s'effondre. C'est un petit peu comme... c'est comme tomber amoureux, en fait. Je pense que c'est la meilleure métaphore. On ne décide pas de tomber amoureux. Donc, je ne peux pas décider du livre que je vais écrire. À un moment donné, je tombe amoureux, j'ai la chance de tomber amoureux. Et ça peut prendre 10 ans hein, avant de retomber amoureux. Tout le monde connaît ça. Mais le jour où vous découvrez... Alors, vous parez vraiment l'être dont vous tombez amoureux de toutes les vertus et tout ça. Et puis, vous apprenez à le connaître. Vous allez au bout de... voilà. Et à un moment donné, vous tombez... Vous confondez... Vous cessez de confondre l'autre avec votre désir. Et le jour où vous mettez à nu votre propre désir, l'autre redevient... l'autre. Ce n'est plus votre... Et le livre peut s'arrêter à ce moment-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les nymphéas, puisque le dernier chapitre élucide qu'est-ce qui s'est passé pour moi à l'orangerie lorsque j'ai eu ce malaise-là. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais ça, je ne peux pas le savoir avant d'avoir écrit le livre. C'est le livre qui va me conduire à un moment donné. Et moi, à la fin du livre, j'en étais à me dire ça y est, j'ai trouvé quel était le grand cadavre qui est enterré... Il va falloir finir le livre parce que je sais que j'écris un livre. Moi, j'écris pas pour moi. J'écris un livre pour qu'il soit lu et que des gens l'aiment. Et voilà, et ça les amuse aussi et ça les intéresse. Et j'avais pensé que j'allais finir. En fait, la petite idée que j'avais, c'est en fait, je vais prendre la dernière scène du film Blow Up. Je ne sais pas si vous vous souvenez où il rencontre, il va dans un parc, le photographe, et puis il voit des mimes, des saltimbanques qui sont en train de faire de jouer au tennis, mais sans raquette, sans balle, sans filet. Donc ils font ça comme ça, et lui il les regarde, et c'est vraiment, ça parle vraiment de l'objet manquant, de la perte, et sans la raquette, sans la balle, et pourtant on peut jouer au tennis quand même. Et ça parlait, en fait, c'était assez, je trouvais que c'était une jolie fin. Voilà, il en fallait une et tout ça. Et vraiment, j'en étais là au moment où... Et là, d'un seul coup, ça m'est apparu. J'ai compris, et là, j'ai écrit le dernier chapitre que vous remarquerez, qui n'est pas écrit dans la même tonalité que le reste du livre, parce que là, c'est l'élucidation de mon syndrome à moi, et non pas l'élucidation des nymphéas de Monet.
Et pour cela, on vous invitera chaleureusement à lire Le syndrome de l'orangerie. Merci Grégoire Bouillet.
Mais merci à vous, merci à tous.
Merci au public d'avoir été là. Merci aux équipes de La Bobine de nous avoir reçus, aux équipes du Printemps du Livre. Merci aussi à Claire Lee qui a fait la technique aujourd'hui, sans qui vous ne pourriez pas forcément nous écouter sur la bande FM et en face de nous. La capsule auditive de l'entretien sera bien sûr à retrouver sur Internet très prochainement, sur le site de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite une belle journée comme aujourd'hui. Et surtout, le plus important, je crois, Grégoire, c'est surtout d'avoir de très belles lectures.
Merci Thomas.
Merci.
Bravo. Quel mot de la fin.